c'est l'heure de...
Hey, t'es sûr que c'est le bon bouton ?
Galéjade.
Quoi ?
Galéjade. Sur Radio Alpa, avec Geoffrey.
On se retrouve pour cette nouvelle émission, cette deuxième partie de l'entretien avec Bastien Vivès. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, je peux vous faire un petit Previously in Galéjade, ou vous écoutez l'épisode précédent, ça marche aussi. Mais bon, donc, si vous l'avez déjà écouté et que je dois vous rafraîchir un peu la mémoire. Avec Bastien, on a échangé donc sur son début de carrière, sur sa première bande dessinée qui s'appelle Elle, sur le virage qu'il y a eu au début des années 2000 dans les auteurs de bande dessinée, dans la bande dessinée en général. Nous avons enchaîné avec l'œuvre majeure qu'il a faite avec Balak et Mickaël sans la ville, à savoir la série Last Man, que vous pouvez découvrir chez Casterman. En attendant, on va se lancer le premier son de l'émission. Avant de continuer cet entretien avec Bastien, nous allons écouter le titre Animal du groupe Leaf qui est déjà venu dans Galéjade. Je lance le titre et derrière se retrouve l'entretien. On se revoit à la fin de l'émission.
I have a weird feeling I've never experienced.
tard, mais comme ouais. Retard. C'est quelque chose qui vient de toi, c'est une commande, c'est quoi?
Non, ça vient de moi parce que les Tortues Ninja, je pense que c'est mon premier vrai choc avec l'industrie du dessin, enfin d'une certaine manière.
C'était les dessins animés ou c'était le comics?
En fait, alors c'est pas le comics américain parce que je l'avais pas, mais pour moi, un vrai choc artistique, pas un truc formel parce que je sais pas, j'ai vu Roger Rabbit ou n'importe quel Disney, c'est incroyable, et c'était pas vraiment un choc par rapport au dessin, c'était un choc par rapport au fait que Tortues Ninja était un vrai ovni d'un truc un peu punk, parce que je voyais et le dessin animé et le film qui correspondait pas du tout au dessin animé, les jouets qui correspondaient pas du tout au film. Je tombe sur le comics original de Kevin Eastman, je fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça, je comprends pas. Je vois Simon Beasley quand il fait le body count de Tortues Ninja, où les Tortues Ninja elles ont des Uzis, elles mitraillent des gens dans les aéroports et tout ça. Bref, il y a tout un magma de, on joue, c'est juste des adultes qui sont en train de s'éclater quoi. Ouais. Pour moi Tortues Ninja c'est ça, c'est des adultes qui sont en train de s'éclater, et ça me rend dingue parce que je pense que c'est aussi ce que j'aime dans le jouet, parce que je collectionne les jouets. Je trouve ça fou que les adultes, alors qu'ils sont adultes, alors qu'on nous les vend avec responsabilité, machin, tout le truc d'adulte, s'éclatent à dessiner des choses, des trucs que même un gamin n'imaginerait même pas dessiner, quoi. Des tortues qui sont ninjas, mais je trouve ça...
Un rat qui mange des pizzas.
Exactement, je trouve ça un truc complètement... D'ailleurs, c'est juste régressif et machin, mais je trouve ça incroyable qu'il y ait des gens qui se soient... poser des questions sur la faisabilité, qui ont imprimé, qui ont investi de l'argent, qui ont mis des trucs comme ça, sur des choses qui sont complètement loufoques, qui sont complètement dingues, ça me fascine. Et après, je pense que ce qui m'a le plus plu aussi dans Tortues Ninja, et c'est pour ça que j'étais fasciné par Tortues Ninja, j'étais fasciné par Alien, et aussi c'est parce que je pense que dans Tortues Ninja, il y a le personnage d'April O'Neil, tout mon comics que j'ai dessiné là, elle est au cœur de l'histoire. Il y a dans Alien, il y a Sigourney Weaver, j'ai toujours eu un truc avec la représentation de la femme forte dans le sens que dans le sel, moi j'entends, tu vois.
Oui,
voilà. Une femme juste libre, en pleine possession de ses moyens,
qui fait ce qu'il veut
et qui a son libre arbitre et qui fait ce qu'elle veut comme elle veut, elle vit sa vie propre. Et ça, je crois que c'est la vision qui me fascine le plus, qui me fascine depuis que je suis tout petit. Peut-être aussi il y a un truc je sais pas, par rapport à ma mère ou des choses comme ça et tout, j'ai vraiment la vision de la femme forte comme ça, et je pense que April O'Neil qui est fascinante quoi, elle est fascinante aussi d'un point de vue esthétique, elle est belle, elle est intelligente, elle a tout un tas de qualités, mais elle est pas non plus c'est pas une bimbo. J'ai jamais été j'ai jamais été trop dans ces trucs là moi, et c'est ça qui me plaisait quoi, Sigourney Weaver dans Alien avec cette espèce de monstre, la confrontation des deux et tout ça, je trouve que j'ai adoré tous ces grands rôles féminins, ces grands personnages qui étaient dépeints là-dessus, ce qui peut-être quand j'ai dû rentrer dans la réalité de ce qu'était découvrir ce qu'était vraiment les femmes et tout ça, et ben j'ai pu aussi parfois sombrer dans de la misogynie ou des choses comme ça parce que elles étaient pas à la hauteur de ce que j'imaginais et tout le bordel. Mais je suis marié, j'ai des enfants avec une femme que j'aime et je suis très content. Et donc en gros il y a quand même tout un chemin qui restera quand même mon cas d'étude. Enfin voilà, ça, le principal de l'étude, ça reste quand même les femmes et le rapport amoureux homme-femme quoi, restera quand même mon
grand. C'est quand même un fil rouge qui
te suit quoi. Cette espèce de couple quoi, cette espèce de les April qui forme un couple avec les Tortues Ninja, de Ripley qui forme un couple avec l'alien, enfin voilà. Et c'est vrai que oui, à chaque fois quand j'étais petit, le personnage masculin a toujours été un peu absent dans les représentations. J'ai toujours préféré un peu les monstres, les trucs à côté. Je me suis jamais identifié à Musclor, je me suis jamais identifié
à tout ça.
Ouais, mais parce qu'il était trop loin de moi, je savais pas. Voilà, ouais, c'est ça, savais pas à qui c'était. Après, quand je l'ai redécouvert et je l'ai apprécié en termes... Mais je pense que c'est quand à un moment j'ai découvert aussi la sexualité, je le voyais aussi comme, j'étais presque attiré par lui, enfin, tu vois, genre, presque dans un truc, dans un délire. Enfin, il était aussi fascinant sculpturalement que les belles femmes et tout machin. Donc voilà, j'étais aussi fasciné par les corps, l'esthétique et tout ça. Donc il y a quand même tout un truc. Mais quand j'étais petit, vraiment, April O'Neil, quand je le découvre, où, tu sais, je me dis, il y a un truc là, il y a un truc, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se passe là, il y a un truc. Et je mettrai toute ma vie à essayer de comprendre. Et d'ailleurs, ce comics en parle de. Ça s'appelle There is something about turtles. Enfin voilà, il y a comme There is something about Mary, là, le film des frères Farrelly. C'est, je crois qu'il y a quelque chose de qui s'est passé avec les Tortues Ninja et moi. Mais on est beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment tapés, parce que je pense que ils parlent souvent, on parle souvent des jouets, on parle souvent de ces trucs-là, parce que c'était cette espèce de bizarrerie, de loufoquerie, de c'était n'importe quoi. Et c'était sérieux, enfin ça marchait et tout le monde connaissait. Et je trouve que ça, c'est ce qui fait que je trouve que c'est fascinant. Tu vois.
Si j'en reviens, j'ai encore une ou deux questions sur la semaine. Ouais. C'était donc adapté en série télé. Première série télé qui se passe 10 ans avant le premier tome. Deuxième saison, là, déjà, ça devient différent puisque...
C'est entre les deux.
C'est entre les deux, mais il y a aussi des changements qui apparaissent sur les personnages, sur leur background. Puisque on a plus la sensation d'être dans un univers parallèle, on retrouve les mêmes persos, mais ils n'ont pas, la même histoire. Ce qui était très intéressant aussi, parce que ça a permis de découvrir des choses. Et on entendait parler à un moment donné d'une saison 3. C'est quelque chose qui est...
Pour l'instant, qui a été mis un peu sous le tapis, bah, à cause de mon histoire, à cause de mon affaire. J'étais dessus, on avait commencé à sortir un arc et tout ça. Bah, c'était la première faisait 26 épisodes de 13 minutes. Ouais. Après, ça a été 7 épisodes de 40 minutes, ou un truc comme ça. Et là, c'était la saison 3 devait être deux longs métrages, quoi. Enfin, à peu près, c'était un truc dans le genre, quoi. Et il y avait vraiment l'idée de on reprenait, je sais plus, mais vraiment, on continuait. C'était. Ça se passait que dans la vallée avec Richard et on découvrait ce qu'était la vallée des rois, un peu ce qu'on avait montré un peu dans l'épisode 2 et tout ça, qu'on avait commencé à montrer un peu dans le truc là. Bref, il y avait plein de choses et on a commencé à écrire dessus. Et puis après, il y avait aussi, il y avait aussi un projet de saison, même en parallèle, ou qui s'appellerait. Ce qu'on avait fait avec les Last Man Stories. Mais très vite, fait siphonner parce qu'à un moment, on dit on va raconter aussi des trucs qui vont se passer à Paxton avec d'autres. Enfin bref, il y avait plein de projets.
Et ça, c'est mort et enterré, la semaine de story.
Non, c'est pas mort et enterré parce que c'est pas dit que moi, je refasse un à un moment parce que j'aurais envie de récupérer, j'aurais envie de m'amuser, de retrouver ça. J'en avais écrit un avec qui était sur Tommy Katana. Je voulais le faire et tout ça. Mais j'avais commencé, Mickaël m'avait même filé un coup de main, il faisait le board et moi je faisais tout le truc. Je dois avoir une dizaine des dix premières planches.
Okay.
Et en plus, franchement, je pense qu'il aurait été trop bien. Enfin bref, c'était un truc où c'était toute l'ascension de Tommy Katana en mère. Quoi. Enfin, c'est qu'elle devient mère et comment est-ce qu'elle devient mère? C'est parce qu'elle nettoie Paxton quartier après quartier. Ça aurait été vraiment trop cool de voir juste Tommy qui juste récupère des quartiers aux mains des financiers, aux mains de la racaille, aux mains des drogués, enfin aux mains des trucs.
Ouais.
Ça aurait été trop marrant, quoi. Aux mains de la religion avec tous les. Bref, ça aurait été trop drôle. Mais ça aussi, tout ça, quand il y a eu l'affaire. Bah, il y a tout qui saute et tu dois te raccrocher à tout ça qui était un peu hypothétique, on va le faire, machin, tout ça et tout. Puis là, tout d'un coup, bah, ça part et donc il faut que tu te raccroches à ce qui tient, quoi. Qu'est-ce qui tenait? Il y avait un Corto Maltese qui était signé. Donc ça tenait.
Ouais.
Je pouvais le continuer. On allait le sortir, on savait pas si on allait le sortir, on savait pas machin, mais bon, au moins je pouvais continuer à le dessiner, donc ça tenait. J'avais un projet de long métrage, ça a sauté, un jeu vidéo ça a sauté, la boîte elle a coulé de jeux vidéo, Pierre Nacking c'était mort, enfin voilà, bref, tout a. Et vraiment là j'ai pu voir ce que c'était que avant quand j'avais le vent dans le dos, quand tu dis bah t'as la confiance des éditeurs, t'as ton public féminin, t'as tout ça et tout, et puis quand là t'as vraiment le vent dans la gueule quoi. Et là, c'est hallucinant, quoi. Vraiment, tu te dis, tu passes, j'ai passé, 3 ans
avec... Parce que l'affaire arrive quand ?
2022.
C'est 2022 ou
c'est fin 2022, 2022, c'est en décembre 2022, et Angoulême, et donc c'est l'année, toute l'année 2023, toute l'année 2024, et là on est, on est en septembre 2025, ça fait déjà deux ans et demi, quoi.
Ouais, un bon deux ans et demi.
Ouais, et là, je commence à retrouver, mais c'est très difficile, je peux pas faire de bouquins autre que chez Casterman.
Ah ouais ?
Non, bah, j'ai, à un moment je suis allé toquer quand même un truc, et la part du temps, ce que j'entends, c'est « Ah, mais moi, je serais très content de travailler avec toi, mais je peux pas te faire venir dans le groupe parce que les gars, ils disent « Ok, vous prenez Bastien Rivez, donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ?» Genre,
ouais, alors,
quel est le signal que vous envoyez, quoi ? Vous publiez un nouveau livre de Bastien Rivez, donc quel est le signal que vous envoyez ? Aujourd'hui, est-ce que c'est de la provocation ? Dès que je fais quelque chose, ça peut être vu comme de la provocation.
Oui, oui.
Dès qu'on va travailler... Non, mais... C'est...
Oui, non, je suis
pour
bien,
des...
je
non
suis
et pour des bouquins qui étaient aussi simples que... Lune de miel ou des choses comme ça, mais non, enfin tu vois, genre c'est mais parce que c'est très compliqué d'aller chez d'autres éditeurs, parce qu'à chaque fois c'est toujours un truc de provocation. C'est même les libraires, je pense que les libraires, dans le fond, un libraire de bande dessinée, il connaît la bande dessinée, il sait que il y a pas de problème à vendre un bouquin de Vivès, il y a pas de souci, sauf qu'il a remarqué que bah en fait s'il le met en vitrine, bah des gens qui vont venir, qui vont râler. Qu'il y a des gens, que les gens avec qui il travaille, avec ses libraires, machin, bah, il y en a toujours un qui sera vraiment contre. Et donc, en gros, bah, les bouquins, on va plutôt les laisser, dans le fond du magasin. Donc, tu vas acheter le bouquin, il faut que tu ailles voir, faut que toi-même tu fasses la démarche d'aller voir ton libraire en disant est-ce que vous avez le dernier Bastien Rivez ? Et tu sais pas si ton libraire, il va te dire tout d'un coup, ça va créer une relation de froid. Est-ce que c'est le sujet dans lequel il faut parler ? Est-ce que ton libraire est pro ? Enfin, en gros, tu te retrouves avec un truc un peu pro et contre. Et là, il faut arriver à faire on arrive petit à petit à se dire. La justice soit la tranchée, machin, ça, mais bon, ça sera pas forcément le cas parce que bah, on sait pas combien de temps va durer l'affaire et il y a de fortes chances que ça s'endorme. Et après, sinon,
oui,
c'est.
Si tu dis il y a de fortes chances que ça s'endorme, c'est que ça s'endorme aussi pour des raisons où est-ce que la justice ne sait pas quoi faire ni comment statuer sur tout ça. C'est pas ça s'endort parce que ça traîne volontairement, c'est ça s'endort parce qu'en fait...
Elle sait pas quoi en foutre de ce truc-là. Ça soulève des débats sur la représentation, sur l'idée. Est-ce que l'image incite à... qu'est-ce qu'on peut représenter ? Est-ce que le simple fait de représenter, c'est de l'apologie ? Enfin voilà, on retrouve avec des sujets depuis l'histoire de l'imprimerie, même avant qu'on jugeait des gens, qu'on trouvait, enfin bref, sur ce genre de questions, tu vois. Il y a toute l'histoire,
bien sûr. Il y a déjà beaucoup d'encre qui a coulé sur tout ça.
Radio Alpa, tu l'écoutes pas, écoute-la.
Karma aux aurores balisées. Rares les moments sont comme ça. Shoot et large d'été, je me suis pris un beau chaos. Attention, les frissons, les regards chauds, lenteur et pulsation. Juste envie de te regarder, aucune peur de plonger. Je pense à toi chaque nuit, j'attends un mot de ta part. Je tourne en rond, je m'ennuie, je suis ailleurs, nulle part. J'ai perdu la raison, y'a plus que toi dans ma tête. De vivre à ma façon, même avec ta silhouette, j'ai hâte de redescendre. Ta foudre fait perdre mes sens, je regarde ton regard tendre, sourire intense. Je tente de me raisonner, je te veux tous les soirs. Et si c'est ça d'aimer, je veux jouir de le croire. Bien blotti contre toi, tout devient nostalgique. Des va et tout s'en va, disjoncté du magique. Tu t'en vas, je deviens électrique. Mais t'es reparti sans un cri, sans bruit, sans rien. Je regrette de rien, je veux partir loin. Je nous revois alors cette nuit si folle et forte que nos corps addicts morts s'est tenu part dans le décor. Je nous revois alors cette nuit si folle et forte que nos corps addicts morts s'est tenu part dans le décor. Parti pour le hic, à laisser le grand soir, je deviens euphorique à l'idée de te revoir. Je me demande si toi aussi tu ressens ça. La peur de trop rêver, trop idéaliser. Mais j'ai envie de le vivre parce que ça va passer. Il faut mieux même l'écrire, le coup de foudre est lancé. Que j'aime sans nuance, l'amour mieux que la transe. Je me shoot à ton odeur pour effacer mes pleurs. Même si j'aime les pluriels, je peux tout plaquer pour toi. Avec toi l'éternel, je peux pas vivre sans toi. Sauras-tu te reconnaître ? Si c'est le cas, montre-toi. mais t'es reparti sans un cri, sans bruit, sans rien. Je regrette rien, je veux repartir loin. Chaque histoire ne s'éteint pas, l'amour se cultive pas à pas. L'éphémère avec toi, c'est ma voix, l'intensité en premier choix. À tous mes amants passés, dans mon cœur à vie c'est marqué. Mais je peux pas m'en empêcher, tomber amoureux chaque soirée. Je nous revois alors cette nuit si folle et forte, que nos corps addicts de mort s'est tenu par dans le décor.
C'est ton deuxième corto. Ouais. Il sort en plein milieu de cette affaire-là.
Ouais.
Il sort un petit peu dans l'indifférence.
Ouais, ouais, il faut pas trop. En... Ouais,
parce que moi qui te suis, ouais, je ne vois quasiment aucune pub.
Ouais.
Je découvre l'album chez mon libraire et je me dis, bah merde, corto maltaise quand même.
Ouais, bien sûr.
Mais est-ce que toi, t'as ressenti un impact? Enfin, est-ce que vous.
Ah oui, il y a eu un impact sur les ventes. Bon, après aussi, c'était un deuxième et tout ça, machin. Il y a eu un impact sur les ventes. Mais c'était. Il faut. En fait. Casterman aussi, moi quand je me prends ce truc dans la gueule, aussi Casterman ils se le prennent dans la gueule.
Oui.
Ils sont hyper entachés. En interne c'est aussi l'horreur. Avec les autres auteurs c'est aussi l'horreur. Enfin tu vois, donc vraiment ils sont hyper emmerdés. Ils sortent de ce truc, ils sont quand même fatigués et un peu traumatisés. Et donc ils sont aussi un peu traumatisés. Ils disent ok, Bastien Ives, le nom va être reprononcé par des journalistes ou dans la sphère médiatique et tout. Il va être reprononcé avec le mot Casterman à côté. Est-ce qu'on est encore prêt pour se prendre une vague? Est-ce qu'on a peur? Donc en fait ils disent on protège, on fait rien et on a la croyance qui est, il y a cette espèce de croyance qui était que ben t'inquiète pas, quand la justice aura tranché et que voilà on sera sorti d'affaire, que t'auras été innocenté, et ben voilà on pourra pouvoir continuer de travailler. Moi je me dis, non mais même si la justice elle tranche, même si machin, même si un jour ce sera jugé et tout, non en fait c'est quelque chose avec lequel je vais vivre, tu vois, et ça, ouais, je comprends.
Peu importe ce que la justice tranchera, voilà, tu devras vivre avec
bien
toute
sûr
ta vie, quoi.
Exactement. Et donc en gros, il y a aussi un calcul, hein, parce qu'en fait il y a la logique, comment dire, il y a les intérêts de Casterman, il y a les intérêts de mon avocat, il y a les intérêts des producteurs, il y a les intérêts des libraires, il y a tout le monde a des intérêts. Après, il faut que je pense aussi aux miens, quoi, qui est que, à un moment, oui, il y a des choses, il y a des choix que je dois faire. Qu'est-ce que j'estime bon, judicieux de faire et tout. À un moment, je me disais, le corto, bon, il y en avait déjà un qui était installé. Est-ce que même moi, je me vois à les défendre, je vais faire ce que je sais faire de mieux, qui est de faire mes albums et de me concentrer là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait La Vérité sur l'affaire Vives. Mmh. J'ai fait cet album. Vous avez dit à chaque fois, genre, qu'est-ce que vous voulez avoir mon opinion, mon point de vue là-dessus? Vous lisez La Vérité sur l'affaire Vives.
Qui reste quand même très périodique.
Exactement. Mais voilà, et les gens, par exemple, les gens n'estiment pas que c'est ce que j'ai à dire, tu vois.
Ouais.
En gros, ils estiment pas que c'est ma réponse. Ils disent non mais là, Bastien, tu fais une pirouette. Il faut que tu affrontes le truc de pleine face et que ça devienne un combat et que ça devienne quelque chose, tu vois. Et je dis oui. Alors ça, je veux bien croire. Moi, je veux bien me battre et avancer là-dessus. Mais il faut pas que ça vampirise aussi tout le reste de mon boulot, quoi. C'est pas évident. Moi, je me dis bon, du moment que j'arrive à continuer à faire des albums, même on a monté Charlotte, c'était aussi en réaction par rapport à ça. Il fallait que je trouve aussi un endroit pour continuer à raconter mes petites histoires, mais qui étaient les histoires un peu rigolotes, un peu tout ça, voilà, pour que ça puisse continuer à vivre. Et le reste, je vais continuer à travailler avec Casterman comme je faisais avant, sur les projets, là, avec Lune de Miel, je suis super content, même si le bouquin, il est difficile, il se vend difficilement, c'est pas évident. Il n'y a pas non plus un gros battage dessus. Après, il y a l'époque, il faut vivre avec l'époque, tu vois,
parce
genre...
Parce que ouais, en ce moment, le milieu de la bande dessinée, c'est quand même plus compliqué qu'il y a quelques années.
Ouais, c'est un peu difficile, il y a l'époque aussi, moi je me dis, bon bah, regarde, même, je sais pas, Robert Altman, le grand réalisateur américain, dans les années 70, le mec, c'était vraiment, genre, le plus grand, il fait M.A.S.H., il fait Makami Sisma, enfin bref, que des... Il a des Oscars, tout ça et tout. Et puis arrivé les années 80, l'époque, elle marche plus, ça marche plus avec Altman, c'est plus possible. Le mec qui a fait M.A.S.H., il peut pas faire ça. Et donc en fait, il a une période de désert, et puis il retrouve un souffle au début des années 90, tu vois. Mmh. Moi, je sais que là, je vais devoir passer une période qui va être compliquée, qui est un peu compliquée, qui est même là, comment je fais pour exister à côté de, je sais pas, moi, comment mon bouquin fait, comment, je sais pas, Lune de miel ou n'importe quoi, je fais pour exister à côté de Un monde sans fin de Christophe Blin et Les culottés de Pénélope Bagieu, tu vois.
Ouais.
Comment je fais, comment moi qu'est-ce que j'ai à raconter en fait, genre comment est-ce que on n'est pas du tout dans les mêmes, dans la même,
oui, c'est la même politique éditoriale,
c'est
là.
Pas du tout la même chose, genre il y a pas de comment dire, c'est impossible, tu vois, genre quand tous les livres qui sortent, enfin, pas tous les livres mais une grande partie sont soit des adaptations soit des trucs de romans, quand aujourd'hui le dessinateur de BD est obligé de s'associer avec un scientifique, un philosophe, mmh, un sociologue pour avoir une crédibilité, quand les auteurs de BD pour être invité sur les plateaux il faut juste avoir un sujet, bon bah voilà, c'est un sujet, on va parler du sujet, mais à quel moment on parle de BD, la BD n'est plus, ne se vend plus par elle-même, quoi.
Oui, et là c'est plus du divertissement, c'est devenu un outil
de communication. D'un mode d'emploi, voilà. Et moi j'appelais ça avant la BD mode d'emploi, et aujourd'hui je vois qu'il y a tout ça, et c'est fou parce que là je vois tous mes potes, ils sont là et ils vont faire un bouquin sur la création de tel truc, la telle figure politique, et tu dis bon, ok, c'est une époque. Et il faut prendre l'argent. Avant, on faisait des guides, le guide de la quarantaine, le guide de machin. Bon, bah voilà, c'était une époque.
Est-ce que t'as pas la sensation que c'est comme le dessin animé, en fait ? Ce qui est en train de se passer, il y a une période où le dessin animé, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est devenu très mainstream, très, très cadré. Et j'ai entendu beaucoup d'animateurs dire qu'ils ne prenaient pas de plaisir à travailler dans l'animation. Jusqu'à ce que des trucs...
Nickelodeon, enfin des Bob l'éponge, Adult Swim ou des choses comme ça, voilà, débarquent. Bon, des trucs un peu ricains, mais après, il y a des... Quand ils...
Et en France, bah, vous avez un peu ouvert la voie avec Last Man.
Oui, avec genre un peu du... Oui, c'est ça.
Parce
avec,
que clairement, il y a beaucoup de... Enfin, je me souviens de la soirée de lancement de la saison 1 de Last Man, c'était sur une péniche, où est-ce qu'on avait vu les premiers épisodes, il y avait beaucoup de monde qui était là. Et donc on avait un peu échangé avec tout le monde à la fin de la soirée, et j'entendais certains animateurs et animatrices qui étaient là... Et discutant, qui disait ouais, bah moi avant je bossais sur ça, j'étais tellement content, ok, d'accord, ça payait moins cher.
Ah bah ouais, mais ils étaient tous payés au lance-pierre, c'était l'enfer et tout. Et après, ça a aussi rincé pas mal de monde et tout. Mais c'est vrai que ouais, c'est quand même.
Et là, la BD, ça vient un peu cet âge-là. Très. On est sur des trucs où est-ce qu'on prend plus de risques. C'est un peu dommage, quoi.
Oui. Alors, il y a quand même des super albums de BD qui sortent et des trucs comme ça. Tu vois, par exemple, tu vois le Madeleine de Dominique Bertaille, là. Mais le boulot monstrueux que c'est, le boulot juste pour ça, tu dis, bon bah voilà, il n'y a pas énormément qui sont capables d'arriver à produire, ne serait-ce qu'en termes d'histoire et machin, mais en termes de dessin, de qualité de dessin, c'est un niveau qui est stratosphérique, ouais, tu vois. C'est, dire, c'est un boulot qui est monstrueux. Et à côté de ça, il suffirait juste de prendre un bouquin déjà écrit et de dessiner des diagrammes avec des trucs et nous expliquer et nous faire des schémas comme un manuel de CM2. Et tu vends la même, voire deux ou trois fois plus. Le calcul pour les éditeurs, il est direct, tu vois. Genre, il y a pas. À un moment, je me souviens quand j'ai commencé la bande dessinée, on disait il y avait des propositions pour faire de la BD publicitaire. Et non, genre, en fait, tu dis, ben, je me souviens quand j'ai commencé la bande dessinée, au début, il y avait des gens qui faisaient des plaquettes de publicitaires en bande dessinée. Par exemple, pour les caries, chez les médecins, tu vois. Oui, et ils t'expliquaient ce que c'était que les caries, comment est-ce qu'on arrivait. Et parfois, tu pouvais recevoir un coup de fil disant, voilà, on cherche des dessinateurs BD, voilà ça. Et moi je disais non, mais c'était la honte de faire ça. Enfin, genre, c'était la honte. Genre, c'était vraiment quand bah, tu t'arrivais pas à publier. Enfin, bah, c'est pas la honte, je veux pas dire ça, mais c'était vraiment un truc que tu faisais
ouais,
à côté.
Pour te nourrir, quoi. C'était...
Un truc à côté, tu faisais le petit truc parce que bon, voilà. Et en fait, tu te dis non, mais en fait, aujourd'hui, c'est BD. Là, il y aurait un 200 pages qui sortirait sur l'histoire de la carie et, et toutes les, le truc avec le je sais pas, le tout le business plan autour des dentifrices et la carie, machin. Mais ça se vendrait, mais comme des petits pains, quoi. Parce que. Je sais pas, c'est devenu, c'est devenu... Alors après, évidemment, on dit toujours, non mais Bastien, calme-toi, c'est une partie, et après le reste, il y a d'autres bouquins et tout ça. Ben n'empêche que je sens que pour la fiction, mais je le vois aussi sur plein d'autres trucs, c'est moins évident par rapport au projet que j'aurais qui moi me prennent, ça c'est moins facile, il y a l'angle est plus difficile à attaquer, c'est plus risqué. Parce que tu t'exposes aussi à... Tu laisses un peu rentrer les gens dans ton cerveau et certains peuvent être mal à l'aise parce qu'ils vont être face à des gens. Mais comment ouais. ce mec dessine des trucs comme ça? Comment ce mec peut penser des trucs comme ça? C'est absolument incroyable. Ouais, alors mais si tu fais quelque chose où tu es un peu neutre et que tu es un peu loin, tu prends moins de risques, tu es moins attaqué. Et en plus, les gens ont la sensation d'apprendre quelque chose. Et là, les gens
sont oui, sans que tu livres aucune part de toi, quoi. C'est... Oui. T'es prestataire. Ouais. T'as mis en forme l'histoire.
Exactement. Et puis, il y a quelque chose d'un peu passif-agressif, qui est que, de toute façon, les albums de BD aussi sont vendus à Noël. Tiens, papy, tu connais rien au réchauffement climatique, je t'offre ce truc-là. Et il y a quelque chose, je trouve, un peu passif-agressif aussi dans ce genre de
moralisateur. De
un peu, ouais.
Eh, papy, surec.
Série en cours chez Casterman. Ouais. Là, t'es revenu à un format de 46 planches.
Ouais, ouais, ouais.
Format franco-belge, le classique. C'est pas trop difficile pour toi qui est habitué à des... À des grands...
Non, mais avec le corto, je me suis senti bien. Je me suis senti assez d'aplomb, et même avec toutes les lectures que j'ai fait autour, je suis replongé dans Bernard Prince, dans Comanche, dans De Rib, dans Buddy Longway, vraiment le 46 planches et tout. Et je me suis dit, c'était le moment d'attaquer. Mon gamin découvrait aussi la bande dessinée au même moment, donc je relis un peu les Astérix et Lucky Luke avec lui et tout. Et je me dis, c'était le moment de s'attaquer. Et c'est vrai, c'est drôle, je pense que voilà, il y a quand même... j'ai fait le manga, enfin, je me suis attaqué un peu au manga. Là, le franco-belge 46 planches. Le format comics, là, cet été, où je me suis vraiment mis avec le 32 pages et tout ça, format comics.
Le roman graphique.
Il y a le roman graphique que j'avais fait un peu avant. Mais voilà, je pense que c'est grand... J'arrive à avoir une vision aujourd'hui, je pense, et ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce de ces grands formats classiques, voilà, comment une histoire peut être où une histoire serait le mieux, enfin comment dire, quelle est la force de chacun de ces formats-là, d'arriver à avoir ce truc-là, et vraiment ça me passionne. Là, quand j'étais sur Lune de miel, je jurais que par le 46 plans, je disais le roman graphique, c'est de la merde, c'est juste on étire le truc, c'est on vend pour rien, on se complaît à dessiner la même case et machin, on fait rien avancer, c'est... bref, alors qu'en deux cases, paf, on fait ça. Comics que j'adorais quand j'étais adolescent, j'ai complètement dénigré en disant on lit rien, il se passe rien, c'est juste des splash pages pour faire plaisir au lecteur, alors qu'en fait c'est un format qui est complètement spectaculaire, qui est un format qui est tellement excitant, vraiment, genre, quelques pages, ça vaut rien, c'est 1€, tu le jettes, enfin, y a qu'un truc vraiment très excitant avec ce truc-là. Le format franco-belge, 46 planches, c'est l'émerveillement, c'est la double page absolument incroyable qui te fait rentrer dans l'univers, bref, et tu vois tout le truc. Et là, le roman graphique, en plus, en ce moment, moi, il me sort par la... Même si là, je l'ai fait avec Corto et tout, mais... Et le roman graphique, là, il est aussi utilisé... Enfin, bref, il y a beaucoup de pages, on peut raconter beaucoup de... Enfin, on peut combler les vides, tu vois, un peu dans le roman graphique, qui, un peu, moi, me saoule un petit peu. Puis je trouve aussi que c'est devenu un peu compliqué, parce que s'il y a aussi une nouvelle génération qui a du mal à émerger, c'est entre parties à cause de ce roman graphique qui, dès le premier... commence et fait un roman graphique de 200 pages, mais t'es rincé et t'as mis 4 ans à le faire. Tu mettras 4 ans, bah ça y est, t'as déjà perdu 10 ans de ta vie, t'as même pas fait de bouquin. Bah, comment tu veux faire émerger un auteur comme ça, quoi? C'est très difficile. Alors que le format 46 pages et les mêmes histoires courtes qu'on essaye de faire avec Charlotte, bah, tout d'un coup tu fais découvrir des gens, c'est intéressant, on s'éclate bien avec ça.
J'en reviens un petit peu sur les romans graphiques parce qu'il y a un album dont on n'a pas parlé, Dernier week-end de janvier,
ouais. Bah, qui est sorti un mois avant la polémique, ouais.
Mais qui est juste exceptionnel pour moi.
Ah bah, merci.
Je me souviens des réseaux sociaux de Arthur de Pince.
Ouais.
Qui partage une story en disant si vous voulez prendre un cours de cadrage, si vous voulez prendre un cours de découpage, si vous voulez prendre un cours de dessin, bref, il fait et hop, dernière photo, c'est lisez ça. Et c'était donc dernier week-end de janvier. Qui arrive, donc juste avant la polémique, et pourtant, si quelqu'un le lit, il se dit bien, attendez.
Il faut que je reprouve ma bonne foi. Non, mais ça, c'est très gentil à Arthur de le faire. Je crois que c'est un bouquin qui a... Parce que le sujet aussi se passe à Angoulême, avec une histoire de romance, et les auteurs de BD ont tous les auteurs d'Autriche, je pense, ont tous vécu un peu ça, d'une manière ou d'une autre. Et aussi les passionnés de BD... ont vécu aussi un peu ça à Angoulême.
On prend un petit peu cher, mais parce que vous venez aussi dedans.
Non, parce que je vois qu'il y a des gens. Non, mais parce qu'on trouve un petit peu. Non, mais on trouve.
Non, mais
un peu
c'est quelque chose que je comprends parce que c'est aussi la vision qu'on en a.
Mais je pense qu'aussi, on le vit aussi parce que c'est quand même un endroit où tout le monde se retrouve et le sujet principal devient la bande dessinée, mais à la fois c'est le sujet principal, mais c'est juste l'espèce de décorum qui va nous permettre de trouver des copains, de se sentir bien, d'être dans un endroit... je crois qu'il n'y a pas d'endroit au monde où je me sens aussi bien que... Enfin, à part... la famille, machin, là. Mais d'endroit au monde, je me sens aussi bien quand je suis devant les bacs de bouquins, quand je suis dans des magasins avec des trucs, avec des toys ou des machins comme ça, parce que tout d'un coup, je suis dans un endroit où, en fait, je suis entouré de BD, et je trouve que c'est... Je sais pas, j'adore ça, quoi, devant une bibliothèque, devant quelque chose comme ça, mais parce que d'avoir tout d'un coup la BD pendant ces quelques jours où tout le monde est autour de ça, et puis ça devient un truc un peu refuge, j'aimais bien. Puis elle peut être aussi un peu vous allez avoir son mauvais côté, quoi, qui fait que bah, tu deviens un peu un nerd, et t'oublies le monde extérieur et tout, et te faire cohabiter tout d'un coup cette espèce de rencontre, la rencontre amoureuse, espèce de coup de foudre dans un endroit de la BD. Puis j'avais aussi envie de retémoigner l'amour du métier, quoi. Je pense que c'était, c'est aussi ça dans cette BD, c'est ça, c'est tout d'un coup cette sensation, lui, il est un peu juste fatigué et endormi par la vie, de la monotonie, truc de la bande dessinée. Puis tout d'un coup, quand il est un peu réveillé par cette nana, ben, ce festival, l'endroit de la BD, genre, c'est trop bien. Il parle avec tout d'un coup, il ressent l'excitation de la bande dessinée, de tout ce truc-là autour et tout. Et ça, j'aimais bien de retrouver. Moi, j'adorais ça. Alors, je le fais, et après, un mois après, je me fais torpiller, et après, j'ai le truc de festival avec l'expo annulée et tout ça. Et c'est genre, bon, c'est vraiment cocasse, quoi. C'est vraiment c'est un peu, je fais une lettre d'amour, et puis je me la reprends dans la gueule.
Moi, c'est un album que j'ai vraiment adoré. Merci magnifique. Je voulais te le dire. On arrive bientôt à la fin, hein, ouais. Lucien.
Je t'en prie.
Là, il y a ton troisième Corto Maltese qui va sortir.
Ouais.
T'es toujours avec Martin Kennen.
Ouais.
C'est d'ailleurs l'une des rares collaborations que tu fais.
Ouais, avec quelqu'un qui dessine pas.
Oui, voilà. Ouais. C'est Martin est au scénario.
Ouais.
Enfin, vous êtes tous les deux co-scénaristes ?
Non. Là, vraiment, depuis le 2, c'est vraiment Martin qui est tout seul au scénario. Okay. Après, je fais les dessins, puis mais maintenant, je lui dis. On ajuste des dialogues ou des choses comme ça, mais vraiment, scénario, je lui dis, avant, c'était. Ah, j'ai l'impression que cette scène-là, ça pourrait être autre chose, et on en parle tous les deux et on fait quelque chose. Et là, je lui dis, genre, là, ça marche pas, faut trouver autre chose.
Et tu le laisses.
Comme ça. Et en fait, après, lui, sinon, parfois, il me dit, non, mais Bastien, peut-être fais comme ça, comme ça. Et je lui dis, ah oui, ok, c'est pas bête, mais là, en gros, c'est lui qui a toutes les rênes du truc et qui se met les mains dans la patouille et tout. Mais là, le troisième, il avait déjà écrit deux autres scénarios avant, et on a mis beaucoup de temps à trouver le bon axe pour le troisième. Mais deux autres scénarios qui étaient vachement bien aussi, quoi. Mais c'est juste que, est-ce que. Ils étaient aussi pertinents. Après, on a aussi les ayants droit. Enfin, bref, on a des gens aussi, pas mal de gens à convaincre. Est-ce que eux, ça leur paraissait pertinent et trouvaient que peut-être moins. Et tout d'un coup, ce sujet-là, dans le prochain Corto Maltese, là, d'être au Tuvalu, retrouver le Pacifique avec un truc un peu plus écolo et tout ça, ça leur bottait mieux, quoi. Et après, il a sa puissance de scénario qui fait que il arrivera à trouver quand même. Comment créer des interactions entre les personnages, les histoires d'amour, bref, c'est chouette.
Et là, le troisième, c'est le dernier ?
Pour l'instant, il y a de grandes chances que ce soit le dernier.
D'accord.
Ouais. Je pense qu'il y a de grandes chances. Corto, ça a été un bon compagnon de galère, quoi. Et ça, c'était chouette de pouvoir le dessiner pendant toutes ces années. Et là, même moi, je me dis, là, je l'ai, comment dire, je trouve que ça fait une belle trilogie. Avec un Corto là qu'on va retrouver plus vieux, il a la quarantaine et plus solide et tout. Après, c'est pas dit que je refasse quoi.
En fait, il arrive quasiment dans les années 2020.
Ouais, maintenant. Il est en 2000, ouais, c'est là, c'est, ça se passe aujourd'hui, quoi.
D'accord, ok.
Et donc, c'est pour ça, il y a un truc. Mais après, c'est pas dit qu'on s'en fasse un quatrième qui se passerait en 2015 ou un truc comme ça. Pourquoi pas ? Je pense qu'on va voir aussi comment les gens prennent aussi le troisième, comment ça se goupille. Mais ouais. En tout cas, moi, je serais trop content de continuer à dessiner Corto plus tard, quoi, parce que j'ai vraiment une relation avec le personnage qui est chouette. Je suis plutôt content de le dessiner, donc c'est pas comme si c'était, je sais pas, Titeuf, au bout d'un moment t'en as marre de dessiner Titeuf, quoi, tu vois, genre, quand tu l'as dessiné pendant 20 ans de ta vie, genre, c'est peut-être un peu
Zep, ouais, d'ailleurs c'est pour ça qu'il alterne avec
il alterne avec d'autres trucs, il a besoin de respirer un peu, quoi. Mais après, je pense qu'il sera toujours content de le retrouver, et Corto, vu que c'est pas mon personnage à la base, je suis toujours content de jouer avec, quoi.
Ouais. Comme si toi, demain, tu avais à refaire un Last Man of Story, je serais content de retrouver...
Ouais, je serais content, mais j'aurais beaucoup plus de mal à y retourner, quoi. Parce que Last Man, ça, c'était vraiment... Ça a pris tellement de temps... C'était tellement un gros truc, tout d'un coup, tu dois remettre tes mains dans le cambouis, ça fait beaucoup plus flipper, quoi.
Juste pour conclure, parce que d'habitude les entretiens sont un peu plus courts que ce qu'on a fait là, je demande à mes invités une chanson qu'ils souhaitent que je passe juste après leur interview. Est-ce que toi, il y aurait une musique?
Les cerfs-volants de Benjamin Biolay.
À mesure que le temps passe, je mesure le temps qui passe. Et tandis que l'eau s'étend jusqu'à l'autre bout de l'étang, je regarde l'aube claire s'allonger sur les conifères. À l'aune, à l'orée du jour, le soleil sera de retour. En dépit des années noires, des années folles, des heures de gloire, à la lisière du torrent, j'irai m'asseoir sur un banc. On ira faire un tour de barque, on ira déjeuner au parc, on s'embrassera dans le cou, il y aura tout autour de nous.
De retour dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3 Le Mans, et nous sommes arrivés en fin d'émission. Pendant cet entretien, vous avez entendu au tout début le titre Animal du groupe Leaf, vous avez entendu Karma de Kuntea, vous avez entendu Plus Loin du groupe Volo, et enfin, pour conclure cet entretien, le titre que Bastien a choisi, Benjamin Biolay, Les Cerfs Volants. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. Si on faisait un petit récap des œuvres de Bastien, donc on a parlé de son premier album qui s'appelle Elle, qui est disponible chez Casterman. Il a deux gros titres dont on a très peu parlé, à savoir Le Goût du Chlore et Paulina, qui sont deux albums qu'il a fait à ses débuts qui lui ont valu ce titre de jeune espoir de la bande dessinée. Derrière, il y a eu la saga Last Man. Alors, Il y a d'autres albums à côté hein, qui sont très bons aussi, mais je peux pas tout vous dire. Puis s'est enchaîné le titre Une Sœur, Le Chemisier, 14 juillet. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'en passe et des meilleurs. De toute façon, vous avez entendu l'entretien. Il a conclu avec Dernier Week-end de janvier. Je reviens sur ce titre, Dernier Week-end de janvier, qui est pour moi l'un de ses meilleurs albums. Même l'une des meilleures bandes dessinées que j'ai lues. Après, donc voilà, c'est quelque chose de très contemplatif. C'est une tranche de vie. Si vous cherchez de l'aventure, de l'action, c'est pas en lisant Dernier Week-end de janvier que vous allez la trouver. Lisez plutôt Last Man. Sa dernière série en cours, bien évidemment, c'est Lune de Miel. Le tome 3 vient de sortir. Ou va sortir. Je crois qu'il sort dans quelques jours. Si vous écoutez en direct, ça doit être mercredi. Si vous écoutez l'Ardif, c'est déjà sorti. Y a bien sûr ces trois Corto Maltese qui sont disponibles. Enfin voilà, comme vous avez pu l'entendre, sa palette est variée, son univers est varié. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Si vous écoutez le direct, on va vous laisser avec Delphine et Vertige. Si vous écoutez l'Ardif, on va vous laisser avec Oblique. Si vous écoutez le podcast, déjà merci d'avoir écouté le podcast. Et on va vous laisser avec ce que vous voulez. Si vous voulez réécouter un autre podcast de Galéja, ce sera encore une fois avec plaisir. Si vous voulez faire autre chose, faites autre chose. Lisez de la bande dessinée, de la littérature, ce que vous voulez. Et voilà. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, moi c'est Galéjade underscore émission. L'underscore c'est le tiré du 8. Sur Instagram, donc Galéjade underscore émission. Sur Facebook, c'est galéjade.émission. Pourquoi j'ai pas pris le même nom? Je sais même plus. Est-ce que c'était la flemme ou je sais pas? Bref. Des fois, je suis un peu teuteux. Si vous voulez retrouver Bastien Vivès, vous pouvez le retrouver aussi sur Instagram, Bastien Vivès. Passez une excellente fin de journée. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Galéjade.
C'est l'heure de... Galéjade.
Quoi ?
Galéjade. Sur Radio Alpa, avec Geoffrey.